L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Il existe des guerres invisibles, celles que l'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Et justement, mon invité du jour, Thomas Gomard, qui a écrit Les guerres invisibles, c'est le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. C'est finalement une personne qui fait de la géopolitique, qui conseille les hommes d'État, les politiques de manière générale, en France mais aussi à l'étranger, sur la manière de gérer les relations entre les pays. Et moi je trouve ça extrêmement intéressant, voire passionnant, de comprendre les dynamiques entre la Chine, entre l'Asie de manière générale, l'Afrique, évidemment le continent africain, le continent américain, les États-Unis, l'Europe, comment ça fonctionne tout ça. Il a une manière de raconter le monde, de voir le monde qui peut être différente de la vôtre, mais en même temps qui est réelle et qui est celle de ceux qui sont au pouvoir, ceux et celles qui sont au pouvoir d'ailleurs. Il a écrit l'année dernière un bouquin qui s'appelle L'affolement du monde, pour lequel il a gagné le prix du meilleur livre de géopolitique. C'est quelqu'un d'extrêmement passionnant et j'espère que la conversation va vraiment vous intéresser parce qu'elle est, profonde. Je vous laisse l'écouter. Allez Volant, c'est parti. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Thomas.
Bonjour Grégory.
On va parler de géopolitique et je crois que la première question qui peut sembler un peu simple et en même temps qui me semble essentielle, c'est de redéfinir ce que c'est que la géopolitique.
Ah, c'est une question qui est évidemment essentielle, mais pas si simple, parce que c'est une notion qui ne fait pas qui est comment dirais-je à l'origine de plusieurs débats universitaires. Mais la définition la plus simple, c'est peut-être celle de Thierry de Montbrial, qui définit la géopolitique comme l'idéologie relative au territoire.
D'accord.
Et en ce sens, la géopolitique se distingue de la politique internationale, qui peut se définir comme ce qui relève de l'activité quotidienne des diplomates et des militaires. Dans la politique internationale, si on continue la déclinaison, il y a ce qui relève de la diplomatie à proprement parler et ce qui va relever ensuite de l'activité militaire, etc. On peut décliner ainsi, mais l'idée de la géopolitique, c'est que ça relève fondamentalement des représentations spatiales.
Et justement, dans votre livre, donc Guerre invisible, vous faites mention des guerres mondiales en disant finalement, ces guerres mondiales, elles sont mondiales principalement pour l'Europe, pour les États-Unis, mais finalement en Asie, même s'il y a eu évidemment le Japon, finalement c'est pas vraiment mondial. C'est mondial en étant ethnocentré, pas ethnocentré, mais plutôt européanocentré. Est-ce que c'est vraiment ça ce qui s'est passé? C'est-à-dire que finalement la réalité de l'Asie à ce moment-là de l'histoire, c'est pas les guerres mondiales?
Alors c'est pas tout à fait ça que j'explique dans le livre, c'est-à-dire que la réalité du conflit pour les pays asiatiques, Japon, Chine, Philippines, Malaisie, etc., Inde, elle a été extrêmement réelle. Bon, et que en fait, la particularité de la Seconde Guerre mondiale, c'est précisément de cette tenue à la fois sur l'espace, je dirais, atlantique et sur l'espace pacifique. Et en particulier, ça a une dimension extrêmement importante en termes navals, le fait que c'est une guerre qui s'est tenue sur mer, dans les airs, sur terre, avec en particulier sur terre l'affrontement frontal entre l'Allemagne et l'URSS. Donc, si vous voulez, c'était pas du tout de dire que les guerres mondiales ne concernaient pas les pays asiatiques. Au contraire, ils sont des acteurs de tout premier plan, et la première guerre après la Seconde Guerre mondiale, où on est passé à deux doigts de l'affrontement nucléaire, c'est précisément la guerre de Corée. Et d'ailleurs, je pense que nous sommes aujourd'hui dans le cycle stratégique ouvert par la guerre de Corée en 1950. On y reviendra peut-être. Ce que j'essayais de dire dans le livre, c'est que nous, Européens, notre construction chronologique, notre manière de raconter l'histoire, notre récit, au fond, ce à quoi nous nous rattachons, est effectivement très lié à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, alors que pour les pays asiatiques, sans encore une fois diminuer l'importance que la Seconde Guerre mondiale a pu avoir, ce qui est beaucoup plus important dans le récit qu'ils font aujourd'hui du XXe siècle, c'est le processus de décolonisation. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est-à-dire que là où les Occidentaux ont une lecture basée sur les deux guerres mondiales dont ils sont sortis vainqueurs, enfin pour les Américains et les Britanniques, les Asiatiques au sens très large, mais là aussi il y a des différences nationales très fortes selon que l'on parle au Japon ou à la Chine ou à d'autres acteurs régionaux. Pour ces acteurs-là, la date peut-être qui fait démarrer le XXe siècle, c'est 1905, lorsque la flotte japonaise détruit la flotte russe à Tsushima. Voilà. Et c'est au fond le point de départ d'un processus de décolonisation par rapport aux puissances occidentales.
Et vous parlez, vous, d'un éveil politique de l'Asie. C'est ça, en fait. C'est vraiment de ça qu'il s'agit.
Oui, voilà, c'est en ce sens. Alors, je parle, c'est d'ailleurs pas simplement l'Asie, c'est aussi les pays d'Orient. Donc, tout ça, c'est toute une historiographie, si vous voulez, qui s'est développée au cours des 3-4 dernières décennies. Et qui, effectivement, on parle d'histoire globale ou d'histoire connectée selon les termes. Selon les écoles, tout ça en fait doit aboutir effectivement, pour rejoindre votre question de départ, à une vision moins européano-centrée des questions internationales. Et de fait, nous sommes pleinement dans ce mouvement. Et Guerres invisibles, l'objectif de ce livre est précisément d'expliquer au lecteur en langue française pour l'instant ce déplacement du centre de gravité du système monde vers l'Asie-Pacifique.
Et oui, et en fait vous sortez ce livre en 2021, juste après d'ailleurs on est en plein dedans, la crise du Covid. Qu'est-ce que ça nous enseigne, cette crise du Covid, mais aussi l'ampleur de la réponse qu'on a donnée à cette crise? Moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de combat entre les pays sur qui aura moins de morts, qui va réussir à juguler le mieux la crise, comme c'était quelque part une sorte de compétition entre les pays, aussi une compétition contre la maladie, bien sûr, mais j'ai cette sensation, mais peut-être que je me trompe complètement.
Bon, si vous voulez, le problème que l'on a pour analyser cette crise sanitaire, c'est que nous sortons d'un récit de la mondialisation qui a consisté en particulier en Europe et aux États-Unis, très charrié par les élites économiques, les business schools, etc. L'idée sur laquelle, la mondialisation, c'était l'interpénétration des sociétés civiles, d'une part, et la croissance inexorable ou l'accentuation inexorable des échanges économiques et financiers, pour faire très simple. Et ça a été beaucoup enseigné comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites des, rela-